minutes, chronique. Montrer le corps, corps de femme, la représentation. Quand on évoque le nu dans l'art, on pense d'abord aux tableaux et aux sculptures que nous avons vus dans les musées. L'histoire de l'art, quoi. C'est ce qu'on appelle le nu artistique. Mais pourquoi tant de nus ? Pour commencer, la statuaire de l'Antiquité grecque renvoyait à l'excellence incarnée par les corps musclés des héros et des dieux. Un nu idéal. Un idéal en majorité associé à des hommes. Du Moyen-Âge à la Renaissance, la nudité a servi à réinterpréter la mythologie et la Bible, avant que l'Église nous distribue feuilles de vigne et autres cache-sexe. Ensuite, et je résume, le nu est devenu une manière pour un peintre masculin de montrer son talent en représentant les formes, la carnation, l'exaltation du corps féminin. François Boucher, Diane sortant du bain, 1742, Alexandre Cabanel, la naissance de Vénus, 1863. Progressivement, on en est arrivé à délaisser les grands thèmes historiques et mythologiques pour représenter des scènes de la vie dites « réelles ». Et quel nu peut-on présenter dans un 19e corseté, si l'on peut dire, des prostituées ? Comme le nu féminin a un pouvoir subversif, il devient un objet de scandale, mais son exposition assure au peintre un statut particulier, intéressant pour le public. Van Dongen, Le Châle espagnol, 1913. Et voilà pourquoi votre fille n'a vu dans les musées que des corps de femmes peints par des hommes. Quand les artistes femmes s'emparent du nu féminin, en peinture, dans la vidéo, la photographie, dans des performances, chacune met en scène son propre corps. Elle ne s'intéresse pas au canon de la beauté féminine ni à la virtuosité artistique. Sans qu'aucune contrainte normative de la représentation de la figure féminine ne s'infiltre entre son image et ce qu'elle revendique, c'est-à-dire l'authenticité d'un regard strictement féminin, sans tabou, sans diktat, sans limite. Ce corps parle et personne ne parle à sa place. Si au début du XXe siècle, la réappropriation de leur corps par les femmes artistes s'est faite grâce à la peinture et la sculpture, comme chez Frida Kahlo ou Germaine Richier, c'est dans les années 60-70, au tournant d'une société qui change, que des femmes mettent en scène leurs revendications féministes face à l'hégémonie masculine, créant le scandale, pour être entendues, dans la provocation exhibitionniste, rendant le spectateur voyeur à son insu. Ce qui ne pouvait pas passer inaperçu, ce qui ne pouvait manquer de provoquer des commentaires antiféministes, voire la censure. Carolee Schneemann, née en 1939 aux États-Unis, en utilisant son corps de manière transgressive, a entraîné des critiques sexistes violentes. En 1964, à l'American Center de Paris, elle présente « Meet Joy », manifeste d'une sexualité féminine assumée, qui est taxée de pornographie. En 1973, sa première performance crée un scandale. Elle y développe une écriture corporelle radicalement féminine, nue, attachée à un harnais suspendu au plafond par une corde, dans une position horizontale, elle imprime des mouvements de tout son corps pendant qu'elle trace à la craie un réseau enchevêtré de lignes aléatoires sur des feuilles de papier qui recouvrent les murs et le sol. C'était pour Carolee Schneemann une manière de se réapproprier les conventions masculines de la peinture gestuelle. Vali Expor, artiste autrichienne, née en 1940, détourne les règles de la représentation du corps de la femme en dénonçant leurs images classiques dans des performances où elle renverse tous les tabous. En 1970, au cours de Body Sing Action, elle se fait tatouer une jarretière sur la cuisse gauche comme un stigmate de l'histoire des femmes, un témoignage d'une soumission dépassée. Grâce à des mises en scène crues, le corps féminin devient un sujet actif. La génération suivante, née dans les années 60, continue dans la même veine en multipliant la représentation du corps féminin dans ce qu'elle a de plus intime, jusqu'à la transgression entre espace privé et espace public. Elke Christufek, née à Vienne, construit une œuvre entre auto-érotisme et exhibitionnisme. Elle accompagne ses performances supposées gênantes de vidéos, d'installations, de collages, de photos mises en scène dans des réalisations faussement amateurs. Les thèmes qu'elle aborde sont biographiques et universels, ce qu'elle appelle des problèmes typiquement féminins. On retrouve les mêmes thèmes d'inspiration chez Tracy Emin, née en 1963 à Londres, dans lesquels elle procède à une mise en scène crue de son corps jusqu'à provoquer une forme de fascination pour ce mélange entre des révélations très personnelles et ce que la société impose aux femmes. L'une des photos de Tracy Emin s'intitule « I've got it all » dans un enchevêtrement entre son corps et une masse de billets de 20 livres sterling. En atteignant le quart du XXIe siècle, l'exposition du corps féminin dans l'art pourrait presque paraître banale. Pourtant, les sujets ne changent pas, entre volonté d'émancipation, affirmation des désirs et bien sûr provocation. Ce qui change, ce sont les médias. L'ère numérique n'y est pas pour rien. Natasha Merritt, née en 1977 à San Francisco, a acquis sa célébrité grâce à son journal intime numérique, les Digital Diaries. Elle y a exposé dans ses photographies les détails les plus intimes de sa vie quotidienne. Amalia Ullman, née à Buenos Aires en 1989, participe de ce qu'on peut appeler la génération post-Internet, pour qui l'outil est si familier qu'il n'existe plus de différence entre la vie en ligne et la vie hors ligne. Elle est connue grâce à son projet « Excellence et perfection », où sur Facebook et Instagram, elle a posté 175 images où elle était censée, au jour le jour, vouloir changer sa vie et opérer une transformation physique. Après 5 mois et 90 000 followers, elle a révélé qu'il s'agissait d'une performance. Son but est de démontrer la façon dont les réseaux sociaux encouragent les stéréotypes sexuels. Le mot de la fin, puisqu'il en faut un à cette chronique, revient à Annette Messager, née en 1943. Être une artiste signifie guérir continuellement ses propres blessures et en même temps les exposer. 10 minutes chronique vous retrouve le 5 novembre dans Viva Culture sur Westrack Radio. À bientôt.